VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. L'Union européenne a annoncé aujourd'hui la prolongation pour un an jusqu'à décembre 2019 de ses sanctions visant 14 hauts responsables du régime du président congolais Joseph Kabila, dont son dauphin pour la présidentielle Ramazani Shadary. Ces responsables sont accusés notamment de violence lors de manifestations en septembre 2016. Les sanctions, qui consistent en un gel d'avoir et une interdiction de visa pour l'Union européenne, visent notamment Ramazani Shadary, désigné cette année pour représenter le camp Kabila à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre selon des documents officiels de l'Union européenne. Et campagne électorale en RDC, les premières scènes de violence ont été enregistrées dimanche à Kindu, dans la province de Maniema. La coalition Lamuka, qui porte la candidature de Martin Fayulu, accuse le pouvoir d'avoir empêché son avion d'atterrir dans cette ville, et les scènes de violence qui s'en sont suivies ont fait 8 blessés graves et de nombreuses arrestations. Reportage Thierry Kabundi de Top Congo FM, nos stations partenaires dans la capitale congolaise.
Criant à l'injustice, la délégation de la coalition Lamuka qui accompagne Martin Fayulu a condamné fermement ce qu'elle a qualifié d'intolérance politique. Eve Bazaïba est la directrice de campagne adjointe et porte-parole de Martin Fayulu.
Après tous les succès que nous avions eu à Beni, Butembo, Goma, Kisangani, Bunia, aujourd'hui nous sommes allés à Buta et le programme était qu'après Buta directement nous atterrissons à Kindu. Mais pendant qu'on se préparait pour décoller, nous avions eu des informations alarmantes qui se sont avérées malheureusement vraies. D'abord, on a interdit aux motards taxi de venir nous accueillir à l'aéroport. Il n'y a pas de problème. Tous les militants de regroupement de la Mouka sont venus à pied. Des hélicoptères de l'armée, des avions de l'armée ont bloqué le tarmac et les instructions sont données. Oui, comme porte-parole de la Mouka, je lance un appel à M. Shadary. Pourquoi il ne peut pas appeler au calme à ces gens? Pourquoi on doit chasser les gens qui font campagne? Pourquoi?
En réaction, Emmanuel Ramazani Shadary, dont les militants ont été pointés du doigt par la coalition Lamuka, dédouane ses militants et charge l'opposition. De Kenge, où il a tenu dimanche son meeting pour lancer sa troisième phase de campagne électorale, le candidat du Front commun pour le Congo appelle tout de même au calme dans la province du Maniema.
Je crois que de mon côté, les gens se comportent très bien. Je sais que je suis ciblé par les autres candidats. C'est parce que je suis le candidat le plus fort. Je demande à tous ceux qui me soutiennent d'être prudent, de ne pas céder à des provocations parce que ce sont des pièges que les gens veulent entendre et parce qu'ils préparent la contestation. Je demande à tous qui me soutiennent de ne pas céder à la provocation. Parfois, ce sont des gens de l'autre camp qui se font passer pour les partisans. Je crois que les miens sont calmes. Ils savent que les gens cherchent à nous provoquer parce que tout le monde sait que le résultat qui va sortir des urnes, comme je vais gagner, la stratégie de l'autre camp, c'est la contestation parce qu'ils disent qu'il ne faut pas aller voter, il faut aller voter avec le bulletin de vote. C'est comme s'ils appellent au boycott. Donc, c'est clair, les gens préparent la contestation. Ce n'est pas une multitude de subterfuges, genre violence, genre provocation.
Le bilan provisoire des violences intervenues à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, est, selon l'Association pour l'accès à la justice, de 8 blessés graves, 3 bureaux des partis politiques saccagés et plusieurs personnes arrêtées. La CAGE, qui dénonce l'implication de certaines autorités locales, exige une enquête crédible. Félix Tshisekedi, candidat de CASH Cap pour le changement, dont le meeting à Bunia a également été perturbé par les militants de Lamuka, reste positif et rappelle sa volonté de ramener la paix à l'est du pays s'il est élu.
Tout se passe très très bien. Vous voyez les images de Goma, à Bukavu, en passant par Uvira et toutes les petites cités intermédiaires. C'était magnifique. L'engouement est partout. Le ticket gagnant que nous formons avec Lucien Saméré leur a promis de nous faire installer à la tête du pays, de venir s'installer ici jusqu'au retour définitif de la paix.
À 11 jours de la fin de la campagne électorale, le dernier virage amorcé par les candidats présidents de la République s'annonce très agité. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Le médecin congolais Denis Mukwege et Yazidi Nadia Mourad, ex-esclaves des djihadistes devenus militantes, reçoivent aujourd'hui le Nobel de la paix, l'occasion pour eux de dénoncer l'impunité entourant le viol employé comme arme de guerre. Le gynécologue de 63 ans et la jeune irakienne de 25 ans se verront remettre le prix récompensant leur engagement contre les violences sexuelles en temps de conflit lors d'une cérémonie à la mi-journée à l'hôtel de ville d'Oslo.
Nos infos sur voafrique.com.
La ministre française des Armées, Florence Parly, en Centrafrique aujourd'hui et demain, elle va réaffirmer à Bangui le soutien de la France à la Centrafrique, où la Russie est de plus en plus présente et lui livrer des équipements militaires. D'après l'AFP, Florence Parly va remettre 1400 fusils d'assaut promis par la France ainsi que des équipements amphibies aux forces armées centrafricaines, les FACA. La ministre va aussi réaffirmer l'attachement de la France à l'initiative de paix menée par l'Union africaine dans ce pays, alors que la Russie a tenté d'engager un processus parallèle. Dans 9 jours, les 2 finalistes à la présidentielle malgache s'affronteront dans un second tour, dont l'issue marquera le retour au pouvoir d'un ancien chef d'État de la Grande Île, soit Ravalomanana, soit le jeune politicien qui lui avait succédé il y a 9 ans, Andry Rajoel. Ce week-end, les 2 candidats ont participé à leur premier débat télévisé. Gabi Dorsil.
Pour l'ancien président Ravalomanana, le souvenir du mouvement de contestation populaire encouragé par le maire d'Antananarive en 2009 reste encore vif et il a promis de revenir au timon des affaires pour achever, dit-il, le travail interrompu sous la présidence non élue de M. Rajoel. Dans ce débat télévisé en direct, Ravalomanana a accusé son rival d'avoir accédé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, lequel, selon lui, a entraîné la détérioration des conditions de vie du citoyen lambda. Il se propose comme celui qui met à fin à ce qu'il appelle le cercle de la pauvreté à Madagascar. Rajoel, lui, a joué la carte du leader tourné vers l'avenir, promettant de résorber le chômage, de favoriser l'autosuffisance alimentaire et de combattre l'insécurité. Les 2 hommes reprendront cet exercice devant les caméras et face au public 3 jours avant le scrutin du 19 décembre. Seulement 4% des suffrages les séparaient à l'issue du premier tour le 7 novembre.
Le pacte mondial sur la migration des Nations Unies a été formellement approuvé aujourd'hui à Marrakech, au Maroc, devant quelques 150 pays réunis en conférence intergouvernementale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé les nombreux mensonges propagés sur cet accord qui doit désormais faire l'objet d'un ultime vote de ratification et ce sera le 19 décembre à l'Assemblée générale des Nations Unies. L'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen propose l'abandon par les rebelles du port stratégique de Hodeida dans le cadre d'un cessez-le-feu pour le placer sous contrôle conjoint des belligérants. L'ONU propose que la coalition pro-gouvernementale dirigée par l'Arabie Saoudite cesse les opérations militaires contre Hodeida en échange d'un retrait des combattants houthis de la ville portuaire. Hodeida, par où entre l'essentiel de l'aide humanitaire au Yémen, serait ensuite placé sous la double tutelle du gouvernement et des rebelles avec la supervision des Nations Unies. Le premier ministre irakien Adel Abdel Mahdi a promis aujourd'hui, 1 an après l'annonce de la victoire sur le groupe État islamique, de s'attaquer à la corruption et de faire rentrer chez eux des centaines de milliers de personnes déplacées par la guerre. Le 9 décembre 2017, le premier ministre d'alors, Haider Al-Abadi, avait proclamé la victoire sur l'État islamique plus de 3 ans après une offensive dévastatrice des djihadistes qui les avaient vus prendre le contrôle du tiers du pays. Le 10 décembre a été retenu comme jour férié et les célébrations de cet anniversaire se déroulent ainsi ce lundi à travers le pays. Une semaine décisive s'ouvre aujourd'hui pour la première ministre britannique Theresa May qui va tenter de sauver l'accord de Brexit menacé d'être retoqué lors d'un vote historique demain mardi au Parlement, mais aussi son avenir à Downing Street, la primature de la Grande-Bretagne. Les députés britanniques se prononceront demain soir sur ce traité de retrait de l'Union européenne âprement négocié durant 17 mois avec Bruxelles, mais dont l'adoption semble très compromise en raison de multiples critiques dont il fait l'objet. Dimanche encore, des responsables de tous bords ont appelé l'exécutif britannique à revoir sa copie et à relancer les négociations avec Bruxelles, où se rendra Theresa May, et ce sera en fin de semaine pour un sommet européen. Jean-Roger Billon, prochaines infos dans 50 minutes avec Henri Francisco.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.